pense que nous devons commencer comme d'habitude par nous remettre au Seigneur pour qu'il nous conduise, qu'il nous aide à bien utiliser notre temps. Et je demanderai à M. Marais de nous conduire dans la prière.
Seigneur notre Dieu, quelle grâce nous fait de nous accueillir encore, de nous parler au travers de ton serviteur et de l'affection que tu peux susciter aussi dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous te demandons? C'est la pleine inspiration de ton esprit, afin que ce sujet puisse être vraiment traité comme toi, tu le vois et que tu veux que nous le recevions dans nos cœurs. Je t'en prie, mon Dieu.
Amen. C'est en prenant notre temps que nous avons décidé d'étudier le sujet délicat, complexe, controversé de la place de la femme dans l'Église et même plus généralement, selon le plan de Dieu, d'après l'Écriture. Nous sommes là-dessus depuis plusieurs mois et je pense que nous n'en avons pas fini. Nous avons commencé, il y a déjà maintenant assez longtemps, à rassembler les données à peu près assurées des sciences humaines à titre préliminaire, à titre préparatoire, puis à schématiser les grandes conceptions du rapport entre masculin et féminin, cela afin de nous mettre en condition, en meilleure condition, pour bien discerner la position biblique. Puis nous avons ensuite considéré l'ensemble des données bibliques en les survolant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc nous avons jeté un coup d'œil sur la place de la femme, tous les textes qui s'y rapportent, et de manière plus générale sur le rapport entre l'homme et la femme, d'après toute la Bible. Et puis nous sommes revenus sur les textes principaux qui traitent plus spécialement du sujet. Et nous nous sommes réservés alors la possibilité de les analyser en détail. Nous nous sommes aperçus que d'après l'ensemble des textes, c'est le début de la Genèse qui définit les choses, qui pose les fondements, et qu'ensuite c'est l'apôtre Paul qui revient sur le sujet de la manière la plus précise. Alors les textes que nous étudions spécialement sont les textes du début de la Genèse concernant la création et la chute et les références qui sont faites ensuite par l'apôtre Paul. Nous avons dans les mois écoulés étudié Genèse 1, 2 et 3. Nous avons presque terminé l'étude du troisième chapitre de la Genèse. Nous n'avons peut-être pas été tout à fait jusqu'au bout la fois dernière de notre commentaire de la sentence édictée au verset 16 pour la femme, mais nous avons montré que l'interprétation qui est parfois amenée, à savoir que le désir mentionné serait le désir de dominer de la part de la femme, un désir coupable que l'homme devrait contrer selon la volonté de Dieu, que cette pensée-là n'est pas vraiment fidèle au texte dans son contexte. Nous avons aussi montré que la domination qui est ici en cause n'est pas une chose totalement et radicalement nouvelle dans la situation d'après la chute, qu'il ne s'agit pas d'un élément qui n'est aucune préparation auparavant, mais que le sens du texte, c'est que ce que Dieu a établi, ce que Dieu, pour le bien des hommes, a défini, se retrouve tordu et caricatural, du coup pénible, une fois que le péché est entré dans le monde avec ses conséquences. Nous avons vu, à propos du verset 16 spécialement, que la bénédiction de la fécondité demeure, mais qu'elle est maintenant victime, pourrait-on dire, d'un coefficient de peine et de douleur. Dieu ne retire pas ce qu'il a dit au premier chapitre à propos de ce privilège insigne d'engendrer et d'enfanter des êtres à l'image de Dieu, pour cette créature humaine, mais il ajoute que c'est dans la douleur que tout cela va se passer pour la femme. De même, la structure qu'on peut appeler d'autorité, la structure dissymétrique que nous avons pu percevoir dans le chapitre 2, entre l'homme et la femme, subsiste. Mais ce qui était uniquement harmonieux et heureux dans le plan originel de Dieu est maintenant tordu et pénible. L'élan de la femme devient le moyen pour l'homme de l'exploiter et de l'opprimer. Il domine, mais il domine, le contexte permet de donner cette nuance, il domine d'une manière oppressive, tyrannique. Il y a bien sûr des différences selon les individus, les cas particuliers, mais c'est en gros ce qui se passe du fait du péché dans l'histoire de l'humanité entre les sexes. Alors je pourrais ajouter simplement, maintenant, je crois que je n'ai pas eu le temps de le faire la dernière fois, que le sujet de ce verset 16, le sujet double, correspond bien à la place de la femme que nous avons discernée dans le second chapitre de la Genèse. Il est frappant que le verset 17, qui concerne l'homme, se rapporte à la relation de l'homme au sol, à la terre. Et là aussi, le caractère de la sentence fait apparaître deux éléments. D'une part, la peine du travail, et d'autre part, la sentence de mort à la fin de l'existence de l'homme sur la terre. Le sol sera maudit, il te produira des charbons et des broussailles, etc. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ce pain, premier aspect, mais d'autre part, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme est défini par ce rapport à la terre, lui, Adam tiré du sol, Adama, et la sentence qui le frappe, donc, concerne son rapport à la terre, avec les deux aspects du travail, qui avait déjà été commandé avant la chute, et de la mort qui correspond à son extraction de la terre, mais qui ajoute alors que ce rapport à la terre originelle deviendra maintenant pénible et l'occasion d'un mal pour l'homme. Et la femme, elle, est définie par rapport à l'homme, son rapport à son mari, et à la maternité. C'est une confirmation de la non-symétrie, de la dissymétrie que nous avons trouvée au chapitre 2. Le texte contient encore une note qui me semble simplement confirmer tout ce que nous avons vu, mais je n'ai pas eu l'occasion de la mettre en valeur. Au verset 20, l'homme donne à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'homme a donné le nom commun de femme au chapitre 2, et nous avons vu que cela suggère la structure de l'autorité. Ici, il donne le nom propre d'Ève, Hawa, à sa femme, un mot qui est apparenté au mot pour vie, Chaim, d'où l'explication car elle était la mère de tous les vivants. Certains ont suggéré de traduire Viviane en français pour faire apparaître le rapport entre le nom et la racine. Il me semble que nous sommes en présence là d'une confirmation de la dissymétrie quant à l'autorité, puisque de nouveau c'est l'homme qui donne son nom à la femme. Dans l'article de cet auteur australien, qui a des vues différentes de celles que je vous propose, l'article de ce Giles que j'ai déjà discuté la fois dernière, la portée de ce verset 20 est partiellement reconnue. Oui, c'est vrai qu'il s'agit maintenant d'un exercice d'autorité si l'homme donne à sa femme son nom, Hawa, Ève. Mais alors Giles essaie de dire, mais ça se situe après la chute. C'est donc un aspect de la situation que le péché a introduite. Alors là, en critique de cette position de Giles, que je continue donc à critiquer, je dirais qu'il ne me semble pas, dans ce verset 20, que nous soyons en présence ni d'une faute de la part de l'homme, ce n'est pas un aspect de tyrannie qui ressort de ce don du nom Ève, ni non plus d'une sorte de sanction de sa part. Ce n'est pas, lorsqu'il donne le nom d'Ève, une sorte d'affirmation de son autorité pour réprimer la femme. Au contraire, comme on l'a bien vu, ce nom est un nom d'espérance, un nom de foi qui montre qu'Adam a compris tout ce qu'il y a de grâce dans les paroles du Seigneur, bien qu'il s'agisse d'une sentence qui frappe le péché dans les versets 14 et suivants, du fait que Dieu a annoncé une défaite ultime du serpent, du fait qu'il a maintenu la bénédiction de la fécondité, par exemple. Dieu a montré sa grâce dans les paroles même du jugement. Et si l'homme a donné à sa femme ce nom admirable de vie, Viviane, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants, c'est qu'il a perçu que Dieu laissait ouverte l'espérance pour l'humanité. Melanchthon, le compagnon de Luther, a appelé Ève avec ce nom, donc qui lui a été donné, le sceau de la grâce. Et je trouve que c'est une très belle expression qui correspond au sens du texte. Alors faire de cette appellation quelque chose qui évoquerait l'entrée du péché, négativement, comme Giles, il me semble que ce n'est vraiment pas du tout aller dans le sens du texte. Si Adam appelle sa femme Ève, c'est très beau, et donc cela doit correspondre à une structure qui était antérieure au péché, à la réaffirmation de la structure dissymétrique que nous avons au chapitre 2. Voilà le seul commentaire que je crois nécessaire de faire sur le verset 20. Il n'y a pas, pour autant que je vois, d'autres éléments dans les versets qui suivent. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons passer maintenant à l'examen des textes du Nouveau Testament et de l'apôtre Paul, qui sont spécialement consacrés à notre sujet par l'apôtre lui-même. Mais auparavant, je ne voudrais pas empêcher quelqu'un qui aurait, sur le début de la Genèse, puisque nous n'avons pas eu le temps de beaucoup discuter, les exposés prennent toujours trop de temps, je m'en excuse. Si quelqu'un, je voudrais laisser à quelqu'un qui aurait quelque chose à dire, une question à poser, une objection à élever, un complément à apporter, je voudrais lui laisser le temps aussi de parler.
N'est-ce pas maintenant qu'il faudrait se poser la question à propos de la parole de l'apôtre Paul, sauvé, enfin, moi, sauvé en devenant mère.
Je crois qu'il vaut mieux attendre d'arriver vraiment à cette parole. Il nous obligera à revenir à la Genèse, oui, mais il me semble que nous pouvons attendre ce texte qui sera le dernier dans ma liste pour vraiment débrouiller cette question-là. Mais Monsieur Chaudrin,
après avoir versé dans le chapitre 2 déjà, que Dieu a créé la femme, et dans le chapitre 3 où il donne à la femme, fait grâce à la femme de pouvoir amener au monde, je pense à ce verset, par exemple, dans Jean où il dit la femme lorsqu'elle est enfant, elle voulait donner leur enfantement. Mais elle se réjouit lorsqu'elle met un homme au monde. Je pense aussi à ce verset où il avait écrit à Christ dans la foule, heureuse les mamelles qui sont portées. Et des fois, je me dis que, comme si, au début de la dernière vie, j'aurais dit à la femme, je fais grâce de pouvoir enfanter et donner la vie. Mais au début, c'est Dieu qui a créé, et de l'homme, à l'inverse, qui a créé la femme.
Attendez, là je ne comprends pas la dernière phrase que vous avez prononcée, si vous voulez juste expliquer un peu plus.
C'est comme si par exemple on devait avoir l'esprit, Dieu lui a fait grâce de pouvoir donner la vie aux êtres. Oui. Et bien, ne veut pas oublier que c'est lui qui l'a fait, et qu'au contraire, lui a tiré de l'homme. Est-ce que...
Oui, il est possible que dans le chapitre 2, le fait que la femme soit présentée comme tirée de l'homme contrebalance le fait que dans la maternité, c'est elle qui donne la vie. En lui rappelant qu'elle a été tirée de l'homme, Dieu la protégerait d'une vanité excessive parce que c'est elle qui est de façon visible, spectaculaire, dans la maternité, source de vie. Oui, c'est bien possible. Oui, c'est une remarque très intéressante à faire. Remarquez que le début du chapitre 4 nous montre qu'Ève elle-même avait assez bien compris les choses. Lorsqu'elle met au monde Caïn, le premier des enfants des hommes, elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, elle reconnaît qu'il s'est passé quelque chose dont elle n'est pas seule la cause et dont elle ne peut pas s'attribuer la gloire, puisque c'est avec l'aide de l'Éternel, c'est un miracle, qu'un homme, un être humain à l'image de Dieu, puisse être mis au monde par une femme.
Si avant la chute, ils avaient eu des enfants, qu'est-ce qui se serait passé? Ces enfants auraient été innocents?
Je crois qu'à coup sûr que si avant la chute, il y avait eu des enfants, ces enfants auraient été innocents à leur naissance. Ça, je crois qu'on peut l'affirmer. Maintenant, la question que vous posez, c'est peut-être, aurait-il été innocent de la chute? La chute intervenue, ces enfants ayant existé déjà, auraient-ils été innocents? Alors là, j'avoue que je ne suis pas en mesure de répondre. Vous voyez, c'est ce genre de questions avec des si, et toujours délicates à manier. Il me semble que Dieu a voulu que ça ne se passe pas comme ça, justement pour nous épargner des questions trop difficiles. Mais que du point de vue de la logique du rôle d'Adam, nous pourrions dire que ses enfants auraient été traités comme solidaires d'Adam. Il était le chef. Il y a certains théologiens, et même évangéliques, je ne suis pas d'accord avec eux, mais évangéliques, je ne leur dénie nullement cette qualité, qui pensent qu'il y a certains humains, certaines populations, de notre globe encore, qui ne descendent pas d'Adam et d'Ève personnellement, et qui pensent qu'Adam était simplement institué comme chef d'alliance pour l'humanité, que c'est à cause de cela que son péché a affecté l'humanité tout entière. Alors, ceux qui pensent comme ça, vous voyez, je pense qu'ils seraient portés à répondre à votre question, même s'il y avait eu des enfants, du fait qu'ils étaient sous la responsabilité de ce chef, Adam, ils auraient été considérés aussi comme solidaires de sa faute. Enfin, ça ne s'est pas passé comme ça, je ne crois pas en tout cas. La Bible me semble présenter toute l'humanité comme descendue réellement d'Adam et d'Ève. Elle a été la mère de tout vivant. Et par conséquent, je pense que le problème que vous posez ne se pose pas, heureusement.
Mais j'ai lu, je crois que c'est un commentateur d'Arbis qui a dit que Dieu, ayant prévu, a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'enfant avant.
Oui, oui. Ah oui, il me semble bien que...
Ce serait été terrible. Enfin, il y aurait eu une race non pécheresse et une race pécheresse. Oui. Ça aurait fait quelque chose d'effroyable.
Oui, je crois qu'ils seraient devenus pécheurs du même coup, mais de toute façon, ça aurait été en effet une situation très gauche, très, très difficile à apprécier, etc. En effet, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'enfant préalablement à la chute. Non pas que la maternité donc, ait été introduite seulement après la chute, puisque le Genèse 1 la prévoit, oui, mais sans doute parce que le temps de l'innocence n'a pas était si long que ça. Vous savez, des théologiens au Moyen-Âge ont discuté pour savoir combien de temps Adam et Ève se sont trouvés dans le jardin d'Éden avant de manger du fruit défendu et avant que la chute donc ne se produise. Nous n'en savons rien. Certains ont été jusqu'à dire seulement deux heures ou trois heures. Bon, j'ai l'impression, moi, que la fin du chapitre 2 suggère un temps plus long, un état qui durait. Ils étaient, tous les deux nus, n'en avaient pas honte. Ça semble être une situation quand même de quelque durée. Mais nous n'avons quand même aucune indication de durée.
La femme, vous dites que le privilège de la femme revenait à vie, mais les femmes qui n'ont pas ce privilège.
Oui, eh bien, je crois que c'est un des effets de la chute que certaines femmes n'ont pas ce privilège. Même dans le mariage, de même qu'il y a, disons, des altérations à l'ensemble des pouvoirs de notre nature qui viennent du fait de l'introduction du péché, je crois que c'est un certain déficit par rapport à la plénitude que Dieu avait voulu à l'origine pour l'humanité. Nous souffrons tous de quelques déficits par rapport à cette plénitude. Nous avons tous des manques, et je pense que si une femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est un manque par rapport à cette plénitude. Alors, ce qu'on peut ajouter en complément, c'est que ce manque était particulièrement douloureux dans l'Ancien Testament. Et qu'on le voit, alors, dans des tas d'histoires. C'était vraiment, là, un manque qui affectait la femme de la manière la plus dure et avec un retentissement social important. Tout la grande joie des miracles que Dieu faisait quand il permettait à une femme qui n'avait pas eu d'enfant finalement d'en avoir, etc. Dans l'Ancien Testament, il en était ainsi pour des raisons sans doute socioculturelles et d'une part, mais aussi pour une raison théologique. C'est parce que tout l'Ancien Testament était orienté vers la venue d'une descendance. Les promesses étaient attachées à une descendance à venir. Déjà la promesse de Genèse 3, cette descendance de la femme qui écraserait le serpent, et ensuite la descendance d'Abraham, etc. Alors le fait de la procréation était théologiquement chargé, pourrait-on dire. Il était lié à toute l'espérance. Alors ce que l'on constate, c'est que dans le Nouveau Testament, du fait que la promesse a été accomplie, et que d'un plan au moins partiellement charnel, le plan national, familial, etc., on est passé à un plan franchement et clairement spirituel dans le Nouveau Testament. Ce ne sont plus les questions de famille, de race, etc., qui comptent, alors qu'elles comptaient encore dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, donc, le privilège de la maternité et, du coup, le manque de la stérilité n'ont plus la même importance. Je crois qu'on doit le dire. Et c'est déjà prophétisé dans le prophète Ésaïe, chez le prophète Ésaïe, qui, au chapitre 56, si je ne me trompe, s'adresse aux hommes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais cela vaut aussi bien des femmes. Non, c'est la fin du chapitre. Non, c'est ça, c'est bien le chapitre 56, début du chapitre 56. S'adresse à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants et dit, verset 3, que l'eunuque ne dise pas je ne suis qu'un arbre sec, de façon assez brutale pour se plaindre de cette incapacité d'avoir des enfants. Ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférables à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Donc là, il y a une promesse, en vue, je crois, de la nouvelle alliance, qui est faite à ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons que la maternité et la paternité qui sont exaltées sont spirituelles. L'engendrement des enfants dans le Seigneur. Là, il y a un net décalage. Ça ne veut pas dire que la maternité et la paternité naturelle sont dévaluées et deviennent des choses négatives. Pas du tout, ça reste des bénédictions. Mais ça n'a pas la même importance clé que dans l'Ancien Testament. Nous y reviendrons peut-être à propos du texte qu'évoquait Jacques Richard tout à l'heure, le texte d'Timothée 2, elle sera sauvée par la maternité. Là, nous aurons à y revenir, à ce sujet dans son ensemble. Mais dès maintenant, je crois qu'il fallait que je dise ce que je viens de dire. Dans le Nouveau Testament, l'accent se déplace très nettement par rapport à l'Ancien. Parce que la promesse est accomplie, la descendance est venue, parce que le plan spirituel de l'opération de la grâce de Dieu est maintenant dégagé, cela est particulièrement net, et la parole aussi, évoquée tout à l'heure, « Heureuses les mamelles qui t'ont porté », s'écrit une femme dans la foule devant Jésus. Et Jésus répond, vous vous rappelez, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, exactement. » Jésus a l'air de dire, ce privilège selon la chair, finalement, il compte bien peu à côté du privilège spirituel de ceux qui entrent en communion avec Dieu et qui sont appelés à une fécondité spirituelle par Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà ce que je dirais. J'espère que c'est au moins provisoirement satisfaisant.
J'ai entendu quelqu'un dire que pratiquer l'accouchement sans douleur et de pouvoir échapper à la bénédiction justement et à la volonté de Dieu. C'est ça votre
idée. Je dirais que... Je voulais vous dire,
oui,
tes douleurs seront augmentées. Alors, C'est-à-dire qu'avant la chute, il y avait quand même des douleurs, il y aurait eu des douleurs.
Bon, alors là, donc, il y a deux questions, mais je commence par la première, donc celle qu'a posée Mme Somerville, en disant l'accouchement sans douleur, ça correspond exactement à l'utilisation d'une charrue et d'un tracteur pour l'homme dans le verset 17. Si on veut condamner toute tentative de l'homme pour diminuer les effets des châtiments de ce chapitre 3 de la Genèse, alors il faut condamner pratiquement toute technique, tout. Et je crois qu'on sombre vraiment dans l'absurde et la contradiction avec ce qu'on trouve dans le reste de l'Ancien Testament. Je crois qu'il est clair non seulement que ces châtiments qui sont évoqués ici au verset 16 et 17 ne sont pas des châtiments que l'homme doive infliger à son prochain, parce que certains ont eu cette idée alors complètement je dirais presque abominable, mais le mot était quand même un petit peu fort, mais complètement folle par rapport au sens du texte en ce qui concerne la domination de l'homme. Certains ont attribué au texte de la Genèse l'idée que c'était un commandement donné à l'homme qui serre la vis et qu'il écrase la femme. Alors ça, c'est complètement dehors du texte. Nous n'avons pas à infliger à notre prochain ce qui correspond ici à ces châtiments du péché, à ces conséquences du péché dans la vie de l'homme. Il ne s'agit pas de faire suer le burnous, il ne s'agit pas de faire retourner à la poussière ceux qui viennent de la poussière. il faut lire tout ce verset. Donc ça, c'est complètement exclu. Mais non seulement cela est exclu, mais aussi l'idée que nous devrions passivement subir ces conséquences. Jamais le texte ne nous dit cela. Il nous annonce que ces conséquences seront là. Mais dans la mesure où nous en avons la capacité, nous pouvons essayer d'en diminuer l'intensité, car jamais nous ne pourrons faire plus. Nous pouvons tenter, en utilisant les facultés que Dieu nous laisse, et c'est l'opération même de la grâce commune, que nous puissions user de ces facultés, nous pouvons essayer d'atténuer les effets, de travailler de la manière qui nous fera le moins transpirer, c'est tout à fait légitime, de retarder si possible le moment du retour à la poussière, tout le sens de l'activité médicale, c'est tout à fait dans la ligne de la pensée biblique tout au long de l'Écriture. Et dans le cas des douleurs de l'enfantement, de les diminuer, elles aussi. Et penser que l'accouchement sans douleur les supprime tout à fait, alors ça je crois que c'est une vue de l'esprit, ou de ceux qui ne sont pas passés par là en tout cas. Non, c'est une manière d'apprendre à mieux coordonner les fonctions du corps pour qu'un certain pourcentage de douleurs inutiles, évitables, puissent en effet être évitées. Mais c'est tout, rien de plus. Il ne faut pas se faire d'illusions, et même quand il y a anesthésie, par exemple, ce qui est encore un autre procédé, quand il y a anesthésie, eh bien, rien que le fait d'être anesthésié, ce n'est pas sans pénibilité, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas d'illusions. On ne réussit pas à échapper totalement à ces effets de la présence du péché qui ont un caractère de châtiment. On ne réussit pas à échapper tout à fait, mais on a tout à fait le droit d'essayer de les atténuer. L'Écriture et la compassion que Dieu suscite conduit à soulager le prochain quand on le peut, précisément de ces douleurs qui sont ici évoquées. Ça, je crois qu'il faut le dire. Alors maintenant, surgit la question posée par notre frère, est-ce que le fait de dire « j'augmenterai la peine de tes grossesses » signifie qu'il y avait déjà des douleurs avant la chute? Alors je ne crois pas. Dans Révélation des origines, j'ai un petit passage où je montre que l'expression hébraïque utilisée est employée aussi à d'autres reprises dans l'Ancien Testament dans le sens simplement de rendre pénible ce qui ne l'était pas. Donc ici, ce n'est pas un texte qui veuille dire nécessairement qu'il y avait déjà des douleurs avant, et je crois que nous pouvons exclure cette pensée à cause de l'ensemble du texte. D'ailleurs, la Bible de la Colombe a traduit d'une manière qui me semble là tout à fait juste, intelligente. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très, très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras. La Bible à la Colombe a éliminé l'idée que certaines traductions pourraient donner, qu'elles étaient déjà pénibles et puis qu'elles ne deviendraient plus.
Alors si Dieu a dit ça à la femme, c'est qu'à l'homme, il faudrait l'adapter à la sort de son enfant. Mais l'homme s'agit pour ne pas transpirer.
C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, et oui, c'est exactement l'argument que je crois devoir mettre en avant. Bon, alors, nous pouvons maintenant nous tourner vers les passages de l'apôtre Paul. Il y a 4 passages de l'apôtre Paul, dont nous allons voir qu'ils comportent tous une référence au texte de la Genèse. C'est un trait commun entre eux qui nous justifiera, s'il en est besoin, de l'accusation d'arbitraire dans notre sélection. Vous voyez, donc vraiment, ce n'est pas les textes que nous choisissons comme ça au hasard ou selon notre goût. Ce sont vraiment les textes qui se rapportent au récit de la Genèse que nous avons à étudier sous la plume de l'apôtre Paul. Il y en a un, c'est par celui-là que nous allons commencer, qui va dans le sens, apparemment, à première lecture en tout cas, d'une thèse féministe, comme on dit aujourd'hui, et les autres qui vont dans le sens contraire, apparemment encore. Alors nous allons essayer de les étudier de la manière la plus rigoureuse. Et nous les prenons dans l'ordre probablement chronologique de la rédaction, c'est-à-dire d'abord l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, puis la première épître aux Corinthiens, chapitre 11 et chapitre 14, et finalement la première épître à Timothée, chapitre 2. Alors nous n'allons pas voir tout cela aujourd'hui. Nous allons commencer sur Galates 3, 28. Je ne sais pas si nous irons beaucoup plus loin. Et il me semble que pour faire du bon travail, il nous faut lire le texte en son entier, qui précède, pour que chacun situe bien dans le contexte. Vous savez que c'est la règle en étude biblique. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si du moins c'est en vain. Celui qui accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frère, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, des promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard. Ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est bien sûr cette clause qui nous intéresse particulièrement, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Premier point, la référence à la Genèse. Elle ne vous est peut-être pas tout à fait évidente, mais je crois qu'on doit l'affirmer sans hésiter. La formule « il n'y a plus ni homme ni femme » devrait plutôt se rendre, si on traduisait de façon tout à fait littérale, « il n'y a plus mâle et femelle ». C'est une expression donc, qui, comme dans le premier chapitre de la Genèse, utilise les mots les plus crus, mâle et femelle, et non pas les termes plus habituels, homme et femme. Et au lieu de la répétition du « ni » qu'il y a dans les clauses précédentes, « ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre », le texte original ne dit pas « ni homme, ni femme, ni mâle, ni femelle », comme notre traduction, la traduction même à la colombe le suggère, mais ni homme et femme. Vous avez un changement, vous avez la conjonction de coordination qui est employée entre les deux mots, comme dans la Genèse, comme pour montrer qu'il s'agit d'une citation de la Genèse. L'explication, ce n'était pas l'explication unique, je viendrai tout à l'heure à une autre idée, mais l'explication de ce changement dans le style de Paul, parce qu'on s'attendrait à ce qu'ils disent ni, pas ni fenêtre, ce changement, le fait qu'il introduise un « et » à cet endroit, s'explique, semble-t-il, par le fait qu'il a voulu réutiliser la formule de Genèse 1. Alors, plusieurs éditeurs du Nouveau Testament, dans l'original, ont mis en caractère gras, ce n'est pas le cas de cet éditeur-là, mais c'est le cas d'autres éditeurs, pour montrer que c'est, à leur avis, une réminiscence, une brève citation de trois mots seulement, du début de la Bible. Alors, c'est ce que nous présupposerons, et ce qui m'autorise à dire que ce texte fait référence à celui que nous avons étudié il y a quelques mois en Genèse 1. Cette première remarque faite, et je pense qu'il faut résumer quel est l'usage que la thèse de tendance féministe, je pense que nous nous entendons là-dessus, fait de ce passage. En gros, un certain nombre d'auteurs aujourd'hui disent, d'après ce passage, Paul nous indique que la distinction entre hommes et femmes pour tous les rôles, toutes les fonctions, au moins en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Église, sont abolies. Il n'y a plus de distinction. Bien sûr, la distinction existe toujours. Il y a toujours des hommes et des femmes. La sexualité n'est pas simplement disons, abolie, nous restons tels que nous sommes, mais elle ne compte plus du tout, à aucun égard, dans la vie chrétienne. Et pour autant qu'elle est chrétienne, même si la société alentour, elle, fait toujours des différences, il n'est plus chrétien de faire de différence. Ce qui implique qu'il n'y aura plus de rôle réservé, qu'il n'y aura plus pour l'accès à certaines fonctions dans l'Église, c'est ça, et certains ministères officiels, de distinctions possibles à observer du tout. Ça, c'est l'usage qui est fait par les féministes, pourrait-on dire, les plus extrêmes. Alors, comment font-ils cadrer cette interprétation avec les autres passages du Nouveau Testament, que nous avons déjà eu l'occasion de survoler, donc vous les connaissez, bien que nous devions revenir sur certains d'eux, Certains de ces auteurs se servent de Galates 3.28 comme d'une sorte de levier pour modifier l'interprétation courante des autres passages, en disant, puisque Paul nous affirme en Galates 3.28 qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mâle et femelle, c'est une distinction dont la valeur, dont la portée est maintenant abrogée, alors quand il parle, par exemple, en 1 Corinthiens 14, disons de la prise de parole des femmes dans l'assemblée et qu'il l'interdit, il ne veut certainement viser que les bavardages intempestifs. Puisque en Galates 3.28 il s'exprime comme il le fait, certainement il ne veut rien dire d'autre en 1 Corinthiens 14. Vous voyez, c'est là le style de certaines interprétations. De même en 1 Timothée 2, certains diront c'est simplement une usurpation tyrannique de l'autorité par la femme qu'il a en vue, qu'il veut exclure, une certaine façon pour elle, qui serait répréhensible chez l'homme aussi, que Paul veut dénoncer, mais ce n'est pas l'accès au ministère, ce n'est pas l'usage d'une certaine autorité. Voilà comment certains se servent de Galates 3.28. D'autres se servent de Galates 3.28 autrement, en disant... C'est en Galates 3.28 que l'apôtre Paul est vraiment l'organe de la vérité chrétienne, qu'il est inspiré par l'Esprit. C'est là que nous avons la note proprement chrétienne, alors que dans les autres passages, il ne se montre que l'héritier du rabbinisme, à l'école duquel il avait été formé, de telle sorte que les autres passages ne font pas le poids à côté de Galates 3.28. Je crois que c'est une position qui n'est pas acceptable pour un évangélique, parce qu'elle soustrait à l'autorité divine des autres textes, à leur pleine inspiration par Dieu, mais il faut reconnaître que certains ont utilisé cette façon d'évaluer les autres passages au nom de Galates 3.28. Je peux signaler en particulier pour ceux qui lisent l'anglais que c'est le cas d'un théologien qui, disons, était évangélique et se situe comme juste à la lisière du monde évangélique, que j'ai rencontré autrefois à Paris, que j'estime beaucoup pour plusieurs de ses ouvrages, qui s'appelle Jewett, professeur en Californie, et qui a écrit un livre sur notre sujet. Il, lui, va carrément jusqu'à la séparation entre ce texte de Paul, qu'il considère comme le texte clé, Galates 3.28, et puis les autres. Où il dit, là, Paul n'était pas inspiré. C'est là sa manière de s'appuyer sur Galates 3.28. Il y a une façon beaucoup plus modérée d'aller encore, selon la tendance du féminisme, dans le sens du féminisme, mais avec beaucoup plus de réserve. C'est la manière qu'adopte ceux qui disent « il n'y a plus ni homme ni femme », ça c'est l'idéal de la nouvelle création. C'est ce qui est le régime nouveau qui est introduit par la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas appliqué dès maintenant, d'une manière totale. La première création avait la distinction mâle et femelle. Paul ici, en citant la formule, en disant « il n'y a plus mâle et femelle », montre que dans la nouvelle création opérée en Jésus-Christ, cette distinction est complètement effacée, mais nous sommes dans notre vie chrétienne encore, entre deux. Nous avons certes les arts de la nouvelle création, l'esprit a mis comme le germe, pour employer une autre image, le germe de cette nouvelle création, mais elle n'est pas encore manifestée, elle n'est pas encore établie à 100% dans notre cœur, qui est encore, hélas, trop partagé, et par conséquent, dans l'Église, il va falloir quand même admettre des distinctions encore, il va falloir tenir compte, pour le temps de ce pèlerinage terrestre, de vestiges, de résidus de la première création, qui n'a pas totalement disparu. Mais nous savons par ce texte que nous allons vers la disparition complète de la différence, de cette distinction. Et ça va quand même influencer notre façon de faire dans l'Église. Si nous savons que c'est là le but vers lequel nous devons marcher, alors nous essaierons dans l'Église au maximum de faire disparaître la différence. Nous essaierons de la minimiser autant que faire se pourra. Voyez la logique de cette position. Alors elle permet beaucoup plus facilement de s'accommoder des autres passages. Parce qu'on peut dire, alors dans les autres passages, quand Paul dit que la femme soit subordonnée, etc., c'est le reste de la première création, dont il faut toujours tenir compte dans la vie chrétienne. Mais Galates 3:28 nous montre que ce n'est qu'un reste. Et que tout notre cœur, en quelque sorte, doit se porter vers la situation nouvelle, où toute différence sera abolie. Ça, c'est donc une interprétation plus modérée, certainement libre des plus grandes objections qu'on peut faire à la première. La question qui se pose à nous, maintenant, c'est celle du sens exact de ce passage dans l'Épître aux Galates. Que veut nous apprendre l'apôtre Paul? Peut-on faire dire au texte, même ce que la position modérée que je viens de définir, lui fait dire? Alors, je vois que l'heure a tellement tourné que nous n'allons pas vraiment pouvoir discuter ce point en détail, mais je vais quand même donner quelques petites indications préliminaires. Il me semble que je peux désigner d'emblée, et ce sera une nourriture pour vos cogitations de tout le mois qui vient, jusqu'à notre prochaine séance, quel est à mon avis l'argument principal que l'on peut utiliser en faveur de l'interprétation féministe, modérée, disons, de ce passage, et ensuite quel est l'argument majeur contre lui, dans ce texte. Et puis nous essaierons de raffiner la fois prochaine. Et vous donnerez vos propres conclusions après étude de ce passage. L'argument majeur en faveur du féminisme, me semble-t-il, c'est avec la réutilisation de la formule même de Genèse 1, qui suggère que le régime de la première création est comme maintenant radicalement changé, c'est l'association de la différence homme-femme aux différences juif-grec et esclaves libres. Nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que la différence juive-grec et la différence esclave-libre sont des différences qui viennent du monde de la première création, et encore telles que le péché l'a affecté, et qu'elles sont abrogées d'une manière totale, éliminées dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Elles le seront d'une manière totalement efficace lorsque le Seigneur reviendra, lorsque la nouvelle création sera établie dans sa splendeur. Là, il n'y aura vraiment plus ni juif ni grec, non, vraiment plus, il n'y aura plus aucune différence. Bien sûr, nous nous rappellerons que nous aurons été de telle ou telle nationalité, mais ça ne comptera plus du tout, et la distinction entre esclaves et libres, de la même façon. Et en outre, cette espérance doit avoir des conséquences tout à fait nettes dans la vie de l'Église dès aujourd'hui. Nous venons d'entendre un sermon qui nous l'a dit avec force et d'une manière que nous pouvions aisément comprendre. Dans l'Église, bien que subsiste dans la société du vieux monde la différence entre les esclaves et les hommes libres, dans l'Église, ça ne doit plus compter. Et entre Philémon et Onésime, il ne doit plus y avoir dans la communion de l'Église de différence. Onésime doit être reçu comme un frère. On pense d'ailleurs, c'est une tradition d'église, je crois, que Onésime a été finalement introduit dans le ministère ultérieurement, et qu'il est devenu responsable de l'église de Colosse. Donc, il ne doit plus y avoir de différence. Alors, si c'est le cas, et je crois qu'on en sera d'accord pour la distinction de race, juif ou grec, la distinction de classe, esclave ou libre, il semble que logiquement, on doit penser la même chose de la différence entre homme et femme, qui est mentionnée dans le même souffle, pourrait-on dire, par l'apôtre Paul ici. Ça, c'est, me semble-t-il, l'argument pro-féministe le plus fort quand on lit ce texte, quand on lit ce passage. L'argument anti, si vous voulez, l'argument qui ne va pas dans le même sens, le plus fort à mes yeux, eh bien, c'est l'argument qui considère le contexte dans son ensemble. Ceux qui ne veulent pas voir ici la moindre conséquence pour les fonctions de l'homme et de la femme dans l'Église disent, mais c'est pas de ça que Paul parle. De quoi parle-t-il? C'est très clair, il parle de la justification par la foi. Ce qui est en cause dans le débat, c'est la possibilité d'être justifié par Dieu, d'être agréé par lui, d'être délivré de son péché. Pour être agréé par Dieu, les faux docteurs qui essayaient de détourner les Galates de l'évangile prêché par Paul leur disaient, il faut en plus se faire circoncire, il faut obéir à ces stipulations de la loi de Moïse. Et c'est à ce propos que l'apôtre Paul prend feu et qu'il leur dit, mais vous êtes complètement fous, mais enfin vous pouvez pas. Vous avez commencé par l'Esprit, vous avez reçu tous les dons par la simple foi répondant à la parole de Dieu, et puis maintenant vous voudriez retomber dans les cérémonies charnelles terminées par la chair, en recourant ainsi à un rite extérieur, à une œuvre humaine absolument impossible. Ou bien c'est par les œuvres, ou bien c'est par la foi. Si c'est par la foi, alors il n'y a rien à ajouter, tout a été opéré par Jésus-Christ. C'est ça le thème du développement de l'apôtre Paul dans ce chapitre. C'est cela qui l'intéresse, et disent par conséquent les tenants de l'interprétation non féministe ce passage, il ne faut pas faire dire à Paul autre chose que ce qu'il dit. Pour la justification, il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, entre esclaves ou libres, entre hommes et femmes. Ça, c'est parfaitement d'accord. Pour être justifié par Dieu, c'est par la foi seule. Les différences qui seraient du côté de l'homme ne comptent plus du tout. Mais Paul ne parle pas du reste et nous n'avons pas le droit de lui imputer des conséquences dont il ne parle pas lui-même. Voilà l'argument tiré du contexte qu'amènent donc ceux qui lisent de façon non féministe ce passage. Alors il faudra que nous raffinions, que nous considérions les mots, que nous pesions les choses la fois prochaine. Oui, alors ensuite nous prendrons les deux passages de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, c'est le début du chapitre. Je peux vous donner les références exactes, c'est du verset 2 au verset 16, ou verset 3 au verset 16 si vous voulez. Et puis au chapitre 14, un passage plus bref. Versets 33 à 36. Et puis alors finalement, le dernier texte que nous aurons à étudier se trouve dans la première à Timothée, chapitre 2, les versets 8 ou 9, comme on veut, jusqu'à 15. Voilà, alors à la fois prochaine, en principe c'est le troisième dimanche de février, je crois, selon notre rythme normal.